RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagrin et Guillermo Bravo.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Extérieure d'Espagne.
Nous sommes déjà le 21 mars, mais dans la journée d'hier, le 20 mars, c'était la journée mondiale de la francophonie, une communauté rassemblée autour de la langue française qui véhicule le partage d'une culture commune et de valeurs qui identifient une société. Pour le fêter, nous avons interviewé l'écrivaine vietnamo-canadienne Kim Thuy, autrice du roman Rue, dont l'adaptation cinématographique a ouvert la Muestra de Cine Francófono, le festival de cinéma francophone participé par l'Alliance française à Madrid. Comme elle nous raconte dans cette interview, le français et la francophonie occupent une place très importante dans le devenir de sa vie.
J'ai appris vraiment le français par amour, grâce à l'amour de toutes ces personnes-là. Et donc l'apprentissage a été très rapide, pas seulement, mais qu'aujourd'hui, je vous dirais, je pourrais peut-être écrire directement en anglais, mais c'est impossible pour moi. Parce que quand j'écris, c'est pour partager la beauté des humains, la beauté des situations, la beauté, voilà, des événements. Et donc, il faut utiliser ma langue d'amour. Et ma langue d'amour, c'est le français. Parce que le français québécois. Parce que les Québécois m'ont vraiment porté mot à mot, pas à pas, quand je suis arrivée.
Restez avec nous pour écouter l'interview complète à la réalisatrice Kim Thuy. Après cela, en fin d'émission, vous pourrez écouter le journal d'actualité avec toute l'information nationale et internationale.
Vous écoutez Vodou Game, le groupe de Peter Solo, musicien venu de Togo et dont les chansons intègrent des paroles en français et en kabi, la langue majoritaire de la région. Le Togo est un des pays les moins connus de la communauté francophone et de la francophonie. Et c'est pour cela que nous avons voulu revendiquer sa position avec un de ses musiciens les plus talentueux du moment. Ce titre s'appelle « Pas contente » et se présente comme un cri de guerre en faveur de la nature qui ne serait du coup pas contente de comment on la traite.
À la technique Juan Morello et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo et à la production Cristina Dorado.
Radio Exterior de España.
J'en ai 26. Je pense qu'ils sont aussi affamés que moi.
J'imagine.
L'arrivée du communisme à Vietnam précipite la fuite d'une fille et de sa famille vers l'inconnu. À bord d'un petit bateau, ils se voient contraints de fuir leur maison et de se lancer à l'aventure. D'abord dans un camp de réfugiés en Malaisie, puis après au Canada. Une culture différente, des gens différents, et le défi de se bâtir un futur dans un nouvel endroit. C'est le point de départ d'une histoire qui s'inspire de celle vécue en première personne par l'autrice du roman « Rue ». Kim Thuy nous plonge dans un monde d'incertitude, dépouillé de la sécurité et de la certitude justement. Un monde dans lequel cette famille va devoir se réadapter et apprendre la langue et les coutumes d'une société complètement nouvelle. En vietnamien, rue signifie berceuse. Et en français, c'est une petite rivière. avec cette dualité, Kim Thuy nous introduit dans sa propre histoire et nous invite à découvrir comment voit-on le monde lorsqu'on sort du confort et de cette certitude. Le roman de Kim Thuy a été repris et adapté dans un film homonyme qui a été choisi pour ouvrir la Muestra de Cine Francófono en collaboration avec l'Alliance Française de Madrid. Et nous nous sommes donné rendez-vous avec l'écrivaine ici pour parler du roman, du film et de leur présence dans ce festival. Bonjour Kim Thuy, bienvenue à l'émission En Français.
Bonjour, bonjour, quel plaisir de parler en français.
Eh bien oui, nous on est l'émission En Français, donc on parle toujours en français et on est ravis de vous avoir ici avec nous, c'est vraiment un plaisir et un privilège. Alors on va commencer par vous demander quand est-ce que vous avez décidé d'écrire ce roman et pourquoi ? Qu'est-ce que vous vouliez transmettre avec lui ?
Je n'ai jamais décidé vraiment d'écrire le roman. J'ai commencé à écrire accidentellement. C'est-à-dire qu'au Feu Rouge, c'était très long, donc je m'endormais. Donc, une des façons de ne pas m'endormir au Feu Rouge, c'était d'écrire des notes, de prendre des notes. Et puis, un jour, comme ça, les notes se sont accumulées. Et un ami à moi, qui est devenu celui qui a acheté les droits cinématographiques, a apporté ses notes à une maison d'édition. Et la maison a publié le livre, et de là, je suis devenue écrivaine. Et du même coup, voilà, le producteur, André Dupuis, qui est l'ami, a décidé de rêver à ce projet de film. Et alors, le livre a été acheté en 2009, a été publié en 2009, acheté pour les droits cinématographiques en 2009, et le film est sorti en 2023. Mm-hmm. Donc, ça fait combien de temps ? 14 ans plus tard. Ouais. Et pour moi, c'était pas long, hein, parce que le livre a eu la chance de vivre sa vie pendant tout ce temps-là. Et donc, j'ai eu la chance de voyager. Il se retrouve aujourd'hui dans 45 pays. Et donc, je continue à voyager pour rue. Donc, je pense encore que c'est un nouveau livre. Et donc, le film, voilà, 14 ans plus tard, existe et est projeté au Canada, au Québec, beaucoup, pendant très longtemps. On a réussi à avoir, je crois, 17 semaines ou 18 semaines à l'écran, ce qui est énorme.
Est-ce que vous pensez que le film reprend bien tout ce que vous avez écrit dans ce roman ?
Je vous dirais que le film ne fait pas que reprendre. Le film a enrichi le livre, en ce sens que le réalisateur Charles-Olivier Michaud a réussi à aller chercher l'essence du livre pour le mettre en film. Et donc, je crois qu'un lecteur et un cinéphile vont sortir de l'expérience avec les mêmes émotions. Donc, il a réussi à aller chercher ou provoquer, en tout cas, les mêmes émotions dans le film que dans le livre. Et je ne sais toujours pas comment il a fait, comment il a réfléchi le film, mais vraiment, j'ai l'impression que tout le livre y est. Alors que, en fait, si on retourne au livre, on dit « Ah, il y a eu que peut-être 10 pages ou 20 pages qui ont été mis en film parce que le budget pour faire un film est énorme. » Et c'était une équipe de 150 personnes hein, pour rendre ce film possible. Alors que le travail d'écriture, c'est une seule personne, c'est moi. Avec, oui, évidemment, l'éditrice, la réviseure, la correctrice, et tout ça. Il y a toute une équipe autour. Mais c'est extraordinaire comme projet. Et oui, il a réussi à aller chercher vraiment la couleur, le cœur, l'âme du livre. Et on a fait son film, et non pas le mien, hein, parce que le mien, je ne suis qu'écrivaine, donc je n'aurais jamais pu imaginer un film. Comment on fait un film? Comment on le montre en film? Et c'est extraordinaire, parce que j'ai l'impression que de découvrir quelque chose de nouveau, mais en même temps, être tout le temps à l'intérieur de moi-même. Comment faire? C'est de la magie.
Effectivement, et je pense que le fait que vous disiez que le film a enrichi le roman ou l'histoire est très bien, non seulement pour vous, mais aussi pour le réalisateur, parce que parfois, et assez souvent même, je pense, les écrivains sont très critiques avec les adaptations ou les adaptations qu'on fait de leur roman au cinéma. Et parfois, peut-être que les réalisateurs sont moins responsables de ce qu'a été Charles Michaud. Donc,
mais dans mon cas, hein, je lui ai répété pendant tous les 7 ans, il a travaillé sur le film pendant 7 ans, je lui disais toujours, tu n'oublies pas, hein, tu es libre de faire ton film. Mm-hmm. Faire le film que toi tu veux faire et non pas le film selon le livre ou selon moi. Mm-hmm. Alors j'ai dit, il fallait absolument qu'il oublie le film, qu'il oublie le livre, qu'il m'oublie moi et de faire seulement le film, son film à lui. Et donc j'ai pas travaillé du tout sur le contenu avec Charles-Olivier Michaud. Je l'ai accompagné, mm-hmm. je répondais aux questions quand il en avait besoin. Mais autrement, mon seul travail, c'était de lui rappeler encore et encore qu'il est libre, qu'il a la liberté la plus parfaite pour faire ce film. Mmh.
Quelle est votre relation avec Charles-Olivier Michaud?
Une relation d'amitié, surtout. Ce n'est pas une relation de travail. Mmh. Et vous savez, entre nous, entre lui et moi, tout ce qu'on fait, c'est de s'envoyer des tableaux qu'on aime, des livres qu'on a lus, des films qu'on a vus. Mais jamais on a parlé du film Rue en tant que tel. Sauf qu'à travers ce qu'on aime, ce qu'on partage l'un et l'autre, je crois qu'on se comprend très très bien. Ou sinon, on sait ce qui vient nous toucher, ce qui vient nous interpeller. Et je vous dirais que là, on a beaucoup de points en commun, Charles-Olivier et moi. On aime à peu près oui, les mêmes artistes, les mêmes films, alors qu'on vient vraiment de deux milieux différents. On s'est rencontrés seulement il y a 7 ans. Et pourtant, oui, voilà, on a le même, peut-être les mêmes émotions par rapport aux choses.
Oui, 7 ans, c'est déjà assez longtemps, je pense. Donc, c'est pas petit. Et je pense qu'aussi, la méthode que vous mentionnez, comme quoi vous ne parlez pas autant du film en soi, mais des choses que vous aimez, aussi lui a permis, d'une façon un peu parallèle, vous connaître et savoir, même si c'est lui qui a fait le film, ce que vous attendiez d'une façon un peu implicite de ce film.
Par exemple, un tableau, quand on se partage et on réalise qu'on aime tous les deux Jean-Paul Lemieux, par exemple. Mais ce qui est, c'est là où on se rejoint, c'est la raison pourquoi on l'aime. Mm-hmm. Et c'est la même raison. C'est cette raison du silence et de toute la vie cachée derrière ces visages très silencieux, ou sinon ces peintures très silencieuses à première vue. Et donc, on discute beaucoup. Des raisons pourquoi on aime. Et c'est là, comme vous dites, c'est énorme parce qu'on révèle beaucoup qui nous sommes. Hein. Une œuvre d'art, oui, elle existe en tant que telle, mais quand on est interpellé par une œuvre d'art, c'est parce qu'on y projette notre historique, nos références. Vous avez raison. Après 7 ans de partage, peut-être qu'on se connaît mieux qu'on croit.
Et bon, nous sommes dans un festival qui met en valeur la langue française dans le cinéma. Je pense que c'est une métaphore intéressante pour introduire ton roman, car dans celui-ci, tu expliques qu'une langue est bien plus complexe qu'une série de normes de grammaire, et que les gestes, les coutumes et d'autres choses qui la rendent beaucoup plus complexe incident notamment dans comment on apprend cette langue et tout ce qui va avec. Comment as-tu vécu le fait de déménager dans un pays aussi différent de ce que toi tu étais habitué et dans ces circonstances en plus?
C'est peut-être plus facile hein, quand on apprend quelque chose de complètement différent. Donc on a un comparatif de deux points de vue complètement à l'opposé, donc on ne se trompe pas. Vous voyez, si quand on apprend peut-être, je ne sais pas, le chinois et le vietnamien, parce que ce sont deux langues tonales, donc c'est très très difficile pour moi quand j'ai commencé à apprendre le chinois, parce que c'est un peu pareil, mais pas tout à fait, un peu différent, mais pas tout à fait, et donc on est confus, hein, parce que la différence n'est pas assez grande, alors que par exemple, le français et le vietnamien, le français est une langue à son, je dirais, c'est une langue dans ma tête, une langue horizontale, on ajoute des syllabes pour faire des nouveaux mots, alors que la langue vietnamienne, c'est vraiment tonale, donc par exemple, je dis la, 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 la. La veut dire hurler, la veut dire une feuille, la veut dire le verbe être. Donc c'est vraiment une langue verticale dans ma tête. Donc c'est une question de, voilà, on monte dans le ton, on descend dans le ton. Alors qu'en français, c'est pas du tout pareil. Et donc on n'a pas de comparaison entre les deux. Donc on apprend quelque chose de, voilà, à l'opposé. Et je crois que c'est plus facile. Et ça enrichit encore plus parce qu'on ouvre l'horizon, on va à l'autre extrême et on regarde en fait la conception du monde à partir d'une culture complètement à l'opposé. Par exemple, dans la culture vietnamienne, il ne faut pas trop gesticuler, on n'a pas de langage corporel comme tel, on garde ses émotions à l'intérieur de nous, il ne faut pas révéler nos émotions, alors qu'en Occident, la force d'une personne, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions, ses opinions et qui prenne place. Et donc, c'est tellement différent que c'est facile. Alors que si je vous parlais de la culture japonaise, qui est très proche de celle des Vietnamiens qui retiennent les émotions, mais le langage corporel pour retenir ces émotions est très différent de celui du Vietnam. Alors, le Vietnam, oui, on roule aussi les épaules un peu, mais on n'a pas ce mouvement de la tête vers le bas, comme une salutation de la culture japonaise, par exemple. Mais c'est très proche. Donc, ça vient de la même intention, mais exprimé juste un petit peu différemment. Donc, c'est plus difficile de comparer que, en Amérique du Nord, ou sinon du Québec, où on gesticule, oui. On rit.
Ils sont très français, eux. Hein.
Oui, très latin. On est dans le plaisir, on est dans la joie. On exprime nos émotions, notre affection, de façon très physique. C'est extraordinaire, en fait, d'apprendre quelque chose de complètement différent.
Je pense que cette perspective linguistique est très intéressante pour bien cerner un peu tout ce qu'on va voir dans ce film. Rue veut dire, comme on disait, berceuse en vietnamien, et c'est aussi une petite rivière en français, comme on disait. Et qu'est-ce que vous avez voulu transmettre avec cette dualité?
Parce que, voilà, déjà, le mot en français, il est magnifique, rue. Mais c'est un mot qu'on n'utilise plus. Il est un peu vieux et il est encore utilisé en Bretagne, je crois, pour parler. Vous voyez, c'est pas tout à fait encore un ruisseau, mais vraiment une petite ligne d'eau qui descend de la montagne. Mmh. Et rue veut dire bercer un enfant jusqu'au sommeil. Et dans ma tête, je me dis, très souvent, on parle des choses qui sont grandes, qui sont frappantes, qui sont visibles, mais on oublie que les grandes choses sont faites de plusieurs petites choses. Mmh. Et sans les petites choses, sans les atomes, sans les molécules, il n'y aurait pas de matière, il n'y aura rien. Mais on oublie de regarder ce qui est moins évident, moins visible, mais si essentiel à la possibilité de quelque chose de plus grand. Mmh. Et donc, je voulais ce petit trait d'eau, cette petite ligne d'eau qui descend tout tranquille, qui ne fait pas de bruit, mais qui construit la rivière. Et la même chose pour une berceuse. Une berceuse, très souvent, on la chante à un petit enfant et on ne réalise pas à quel point on construit l'enfant, et on, pas construire peut-être, mais contribuer à construire la vie d'un enfant.
À l'éduquer,
à l'élever, à l'aimer. Mmh. Hein? La berceuse, c'est le, je crois, un des gestes d'amour les plus tranquilles, mais en même temps les plus importants. Mmh. Hein, c'est un moment intime de murmure entre un parent ou un adulte avec un enfant. Et donc, je voulais faire, je voulais révéler, ou sinon faire ressortir tous ces petits moments, ces petits gestes, ces petites choses qu'on n'entend pas, qu'on ne mesure pas, mais qui jouent un rôle si important dans la vie de tous. Et pourquoi, pour ce livre, pour ce film, c'est de rappeler que les petits gestes qu'on pose, les petits gestes d'amour qu'on pose, les gestes d'attention, peut-être amour c'est un grand mot, mais les petits gestes d'attention qu'on pose dans la vie a un très grand impact pour les autres à qui on offre ces gestes-là. Mmh. Et de ne pas oublier d'offrir ces petits gestes.
Si c'est vrai que amour, souvent on pense que c'est un grand mot, et c'est sûrement un grand mot, mais c'est aussi quelque chose qui est composé de petits gestes finalement. Donc on peut le retrouver un peu partout, alors que normalement quand on nous dit amour, on pense souvent à l'amour romantique ou même à l'amour familial, mais l'amour s'étale sur beaucoup de choses. Et certes, évidemment, le fait d'éduquer quelqu'un ou de le former, s'il n'y a pas d'amour dans cette éducation ou dans cette formation, c'est très difficile de bien éduquer quelqu'un.
Et on dit toujours, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de tomber amoureux de quelqu'un. Voilà. Et la meilleure façon, ou sinon la façon la plus rapide pour apprendre une langue, c'est sur l'oreiller. Et oui, on parle de l'amour romantique, mais métaphoriquement, ça serait ça. Comme quand je suis arrivée au Québec, j'ai été accompagnée par toute la population de cette petite ville, vraiment pas à pas. On m'offrait un mot à la fois. On m'offrait le mot pomme avec une pomme. Hein? Et nécessairement, voilà, on ne peut pas oublier le mot pomme après avoir mangé la pomme donnée en cadeau. Oui, on pouvait aller acheter une pomme et manger la pomme. Et ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui nous offre une pomme et qui nous offre en même temps le mot pomme. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et donc, oui, j'ai appris vraiment le français par amour, grâce à l'amour de toutes ces personnes-là. Et donc, l'apprentissage a été très rapide, pas seulement, mais qu'aujourd'hui, je vous dirais, je pourrais peut-être écrire directement en anglais. Mais c'est impossible pour moi. Parce que quand j'écris, c'est pour partager la beauté. La beauté des humains, la beauté des situations, la beauté, voilà, des événements. Et donc, il faut utiliser ma langue d'amour. Et ma langue d'amour, c'est le français. Parce que le français québécois. Parce que les Québécois m'ont vraiment porté mot à mot, pas à pas, quand je suis arrivée. Et donc, l'apprentissage a eu lieu, peut-être... dans ma tête, hein, j'ai pu parler le français en un mois.
Rue va donc ouvrir ce festival cinématographique qui met en commun plusieurs cultures très différentes. Non seulement la culture vietnamienne et la culture française, mais il y a des films qui viennent des territoires palestiniens, par exemple. Il y en a qui viennent du Sénégal, de tous les coins du monde, presque. Et on rassemble tous ces films autour de la langue française. Que pensez-vous de ce type d'initiative et peut-on utiliser la langue pour unir les peuples ou est-ce qu'il manque encore quelque chose?
Je vous dirais la beauté de la francophonie, c'est que le français est parlé sur les 5 continents, n'est-ce pas? Et il est parlé selon le continent où il se trouve. Et donc, la beauté de la diversité du français, enrichie par les lieux où il se trouve, est extraordinaire. Et quand on a un festival de films comme ça, qui montre la diversité, la richesse du français, enrichie par ces lieux, c'est extraordinaire d'imaginer, parce qu'on oublie j'allais vous nommer, l'île Maurice. Hein, on parle français, mais avec l'influence de la culture locale, de la géographie locale, des habitudes, des coutumes locaux, c'est extraordinaire, comme le Québécois. Le Québécois est influencé nécessairement par la culture anglophone où il se trouve, le Québec. Et je parle que du Québec, mais le reste du Canada. Il y a des poches francophones un peu partout. Je reviens tout juste de Vancouver, justement, où on préserve le français encore avec encore plus de force qu'au Québec. Parce que la poche francophone à Vancouver est plus petite, donc elles prennent soin du français encore mieux qu'au Québec, parce qu'elles ont peur de perdre ce bassin. Et donc, le français en Colombie-Britannique est encore plus pur que celui au Québec. Parce que le Québec a un peu craint un peu moins de la perte, parce qu'on est plus nombreux quand même, on est 8 millions au Québec, et quand on regarde ça, c'est magnifique. Et pourquoi on a besoin de la francophonie? Pourquoi on a besoin du français? Comme on a besoin de l'arabe, comme on a besoin du japonais, comme on a besoin du birman, parce que la richesse de la diversité va nous préserver. Chaque langue porte une culture. Chaque langue nous offre un point de vue différent. Comme je dis souvent, le poisson rouge, en anglais, on l'appelle goldfish. Et en vietnamien, on l'appelle le poisson chinois. Pourquoi? Parce que le vietnamien est allé prendre la racine du poisson, l'origine du poisson pour le décrire. Et le français, je crois, regarde le poisson de la tête vers la queue. Et ce côté-là d'écaille est rouge. Mais si vous regardez le poisson de la queue vers la tête, l'autre côté de l'écaille est doré. Et c'est pour ça que les anglophones l'appellent le goldfish, hein, le poisson doré. Et donc, quand on a la diversité des points de vue, on comprend mieux la réalité. Et donc, là, le français doit absolument continuer à exister. Et le français multiple, pluriel, permet justement cette diversité, cette compréhension du monde. Oui, juste le mot, comment je vous dirais ça, le nombre de mots qu'on a pour exprimer la neige en français au Québec est beaucoup plus nombreux, je suis sûre, que le nombre de mots pour exprimer la neige à Paris.
Évidemment.
Oui, comme au Vietnam, il y a juste un mot pour la neige parce qu'on n'a jamais vu la neige.
Exactement.
Oui.
Comme vous disiez avant, la géographie apporte beaucoup au langage, non seulement la géographie, mais tous les aspects culturels divers. Et je pense que justement cette diversité de langage et de culture, c'est ce qu'on essaye de préserver dans ce festival, un festival auquel vous contribuez avec votre propre point de vue et auquel nous animons à tout le monde qui nous écoute de regarder les films qui sont présents et d'apprendre un petit peu plus sur la francophonie et toutes ses nuances. Merci beaucoup Kim Thuy pour votre participation à l'émission en français.
Alors merci beaucoup. Oui, il faut apprendre le français, surtout pour les unilingues anglophones, parce que le mot gourmand et gourmandise n'existe pas en anglais. En anglais, vous n'avez que gluttony, qui est glouton, donc vous mangez seulement avec culpabilité. Alors que gourmandise, vous mangez avec culpabilité et plaisir en même temps. Vous voyez, donc il faut apprendre le français pour la gourmandise.
Et pour le plaisir. Merci beaucoup.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieur Espagne.
Où que vous soyez.
Nous commençons aujourd'hui dans le Congrès des députés à Madrid où, comme chaque mercredi, s'est tenue la session de contrôle au gouvernement.
Cette semaine, le sujet portait notamment sur la récente promulgation de la loi d'amnistie et du développement des engagements qu'elle inscrit. À l'origine des échanges d'aujourd'hui se trouvent des déclarations controversées du président de la région catalane, Pere Aragonès, des indépendantistes de gauche, Esquerra Republicana.
Un système propre, un système de financiation singular qui soit la base.
Aragonès défendait l'introduction d'un système fiscal en Catalogne dans lequel ce soit cette dernière qui reçoive les impôts de contribuables pour après verser une somme accordée préalablement à l'Espagne. D'après le président régional, ce système singulier permettrait de mettre les bases d'une nouvelle relation bilatérale entre la Catalogne et l'Espagne. La bilatéralité est un type de relation typique entre deux États souverains, ce qui a dérangé certaines personnes au gouvernement et dans l'opposition.
La posición del gobierno es muy clara respecto a que nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad.
La ministre des Finances et des Comptes Publics a encadré le travail du gouvernement dans une réforme complète du système pour la Catalogne, mais aussi pour le reste des régions, enlevant ainsi de l'importance aux mots de M. Aragonès. L'autre sujet politique de la journée a été l'instrumentalisation de la majorité du Parti Populaire dans le Sénat pour bloquer la chambre territoriale du Parlement espagnol.
El Partido Popular ha convertido el Senado en una cámara dilatoria y obstruccionista.
Félix Bolaños, ministre de la Présidence, de la Justice et des Relations avec le Parlement, a affirmé que le Parti Populaire a transformé cette chambre territoriale en un mécanisme d'obstruction au travail de l'exécutif et au développement de son mandat public. Une thèse aussi soutenue par la vice-présidente troisième, Teresa Rivera. Les féminicides et la violence conjugale montent dramatiquement dans les derniers jours.
Après le report du meurtre d'une femme lundi, le mardi, un nouveau cas a été identifié. Un homme aurait tué son ex-partenaire à Pizarra, Málaga, et un autre a tué ses enfants de 2 et 4 ans avant d'essayer de se suicider près de Almeria. Ceci élèverait le chiffre à 4 morts dans les dernières 48 heures. Si le cas se confirme, ce serait la 7e femme assassinée cette année par son partenaire ou ex-partenaire. Par rapport aux mineurs, ce serait les 3e et 4e de cette année.
En France, l'autorité de la compétence impose une amende de 250 millions d'euros au géant numérique Google.
L'autorité française de la concurrence reproche notamment aux géants américains de ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse pour évaluer leur rémunération au titre des droits voisins et avoir utilisé les contenus créés par les journalistes français pour entraîner son logiciel d'intelligence artificielle Gemini. Le géant américain d'Internet Google a jugé mercredi disproportionné le montant de l'amende de 250 millions d'euros qui lui a infligé l'autorité française de la concurrence pour non-respect de certains de ses engagements pris en juin 2022 concernant les droits voisins.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute pour cette émission sur la journée de la francophonie et rendez-vous samedi à la même heure de toujours. À très bientôt, Guillier.
À très bientôt. Nous vous laissons en compagnie du groupe Fatal Mambo, originaire de Montpellier, dans le sud de la France. C'est un groupe qui existe depuis 1989 et c'est l'amour des rythmes afro-cubains et latinos qui réunit ses quatre copains dans un groupe appelé d'abord Tabasco. Ce titre s'appelle Lâche-la et c'est un de ses plus connus. À bientôt.
Si tu tires à ta cafetière, laisse-moi danser à l'aise.
Lâche-moi, tu me tiens trop serré.
Va, je te brouille. Tu comprends le français?
Lâche-moi, tu me tiens trop serré.
Ils nous matent en silence.
Ah ouais.
Je crois qu'ils aiment pas ta cadence.
Lâche-la, tu la tiens trop serrée.
Oh, figure de lièvre, on t'a dit de lâcher.
Lâche-la, tu la tiens trop serrée.
Va t'asseoir, manine, on va s'en occuper.